Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la défense européenne. À l'ordre du jour ce soir, l'Union européenne est-elle prête pour la défense commune? Les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense de l'Union étaient réunis hier et aujourd'hui à Bruxelles pour aborder une fois encore les questions de sécurité et de défense commune européenne. Il s'agit à la fois de répondre au camouflet récent infligé aux pays européens dans le cadre du retrait d'Afghanistan ou de l'affaire des sous-marins australiens, mais surtout de mettre en place la boussole stratégique Livre-Blanc qui doit permettre de mettre au clair une stratégie commune de l'Union en matière de sécurité et de défense, car les craintes de voir disparaître la protection des États-Unis et de l'OTAN taraudent de plus en plus de nations européennes. Nous en discutons avec nos trois invités. Louis Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, vous dirigez la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, vous avez été secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et vous avez été chargé ensuite par le président de la République d'une mission sur la relance de la défense européenne, d'un rapport qui s'intitulait « Défendre notre Europe ». Et vous avez dirigé là aussi le quatrième tome de Mondes en guerre, un excellent ouvrage autour de la guerre. Mondes en guerre, guerre sans frontières, 1945 à nos jours, aux éditions Passé Composé. Avec nous également, Johanna Möhring, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au centre Cassis de l'Université de Bonn, chercheuse associée au centre Thucydide. Vos recherches portent sur la défense européenne ainsi que sur les politiques de puissance au XXIe siècle. Votre thèse, que vous allez bientôt rendre, travaille sur l'avenir de la coopération en matière de défense en Europe. Et vous êtes cofondatrice de Women in International Security France et responsable de la section puissance militaire au XXIe siècle de l'Association pour les études sur la guerre et la stratégie. Avec nous, troisième invité, Tara Varma. Bonsoir. Vous êtes directrice du bureau de Paris du think tank European Council of Foreign Relations et vous avez suivi la politique européenne étrangère de la France ainsi que les efforts justement de construction d'une politique étrangère au niveau européen.
L'Europe a besoin d'un instrument, des capacités, des moyens pour trouver son chemin dans un environnement chaque fois plus difficile et plus dangereux. Notre environnement devient un paysage où l'Europe doit se trouver des moyens de se défendre. Évidemment, la défense européenne, c'est l'OTAN, mais il faut avoir des moyens complémentaires, pas substitutifs, de façon que les Européens puissent faire face à des crises dans son environnement que personne d'autre va résoudre. Il y a aussi les attaques cybernétiques, il y a les attaques hybrides, il y a la nouvelle guerre qui se fait dans l'espace. Il faut lutter contre la désinformation. Il y a beaucoup de dangers qui ne sont pas strictement militaires dans le sens classique du terme, mais il faut avoir les moyens aussi d'intervenir militairement quand il le faut.
Il s'agissait d'une interview récente, le 12 novembre dernier, sur France 24, de Josep Borrell, le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne. Louis Gauthier, vous qui suivez ces affaires de très près, est-ce que vous pensez qu'une réunion comme celle qui a eu lieu à Bruxelles hier et aujourd'hui est une réunion importante qui fait avancer les choses ou, d'une certaine manière, qui continue à rassembler des puissances européennes qui ne sont pas tout à fait d'accord sur les manières d'aller vers une défense européenne et de briser, comme vous le disiez, il y a quelque temps, un cercle d'inhibition?
Je pense que c'est une réunion importante, ne serait-ce que pour vérifier comment on peut avancer dans des directions qui sont évoquées dans la boussole stratégique présentée par Josep Borrell. La tonalité, d'ailleurs, qui accompagne en communication la publication de la boussole est quand même inquiétante. Face à une Europe en danger, est un sous-titre qu'utilise M. Borrell. Et je crois qu'il a raison de souligner que, certes, il y a eu des itérations, des répétitions, des hoquets à la défense européenne depuis 92. Hein. C'est le traité de Maastricht qui commence à envisager l'hypothèse d'une défense commune. Mais, sauf que les temps ont considérablement changé en 30 ans et que les menaces qui, à la fin de la guerre froide, c'était avait disparu du continent européen, se rapproche dangereusement aujourd'hui du voisinage de l'Union. Et l'affaire Bélarus le montre, après d'autres problématiques, terrorisme, cyber, etc. Donc, de toutes les façons, ce rendez-vous est essentiel, mais il est pour l'instant pas décisionnelle. Et comme toujours, hein, cette boussole stratégique, elle intervient après que d'autres documents de cette nature ont été publiés, la revue stratégique de Madame Mogherini en 2016, ou le concept stratégique de Solana. Après, bah, il faut transformer les choses politiquement. Et c'est là où ça devient sans doute plus difficile.
Et c'est là où on a besoin de celle qui est en train d'écrire une thèse sur l'avenir de la coopération en matière de défense en Europe, Johanna Möhring. Vous écrivez sur ces questions-là pour votre thèse. Est-ce que vous pouvez nous définir, par exemple, ce qu'on appelle cette boussole stratégique, qui est un terme venu de l'anglais et traduit littéralement, pourrait-on dire. C'est le compass. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette boussole stratégique? C'est quoi? C'est une sorte de liste de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir justement aller vers une défense européenne?
C'est une très très bonne question et je vais répondre en vous proposant de faire deux pas en arrière et de regarder toutes et tous ensemble en fait les coopérations en matière de défense qui coproduisent ensemble la sécurité en Europe. Je pense que ça va nous aider un peu de faire face à la complexité de la tâche et aussi on pourrait ensuite nicher ou voir comment cette boussole stratégique se niche dans ces efforts collectifs. Donc, on a déjà entendu par la voix de Joseph Borrell que dans cette coproduction de sécurité, il y a bien évidemment l'OTAN, donc avec la garantie de sécurité conventionnelle et nucléaire des États-Unis. Il y a ensuite l'ambition européenne de produire du capacitaire et aussi vraiment avoir un projet d'autonomie et de souveraineté. Et il y a ensuite aussi des relations bilatérales, par exemple, entre la France et le Royaume-Uni. Donc, vous avez déjà parlé de ce contrat de sous-marin qui fâche, mais aussi la relation, par exemple, entre la France et l'Allemagne, un partenariat stratégique important, mais très compliqué. Et ensuite, pour clore ce rapide portrait, nous avons également des initiatives minilatérales qui réunissent un certain nombre de pays qui peuvent être en dehors des institutions nommées ou à l'extérieur, comme par exemple l'initiative de la France d'intervention pour créer des capacités opérationnelles. Tout ça, ce sont donc des terrains de coopération qui sont liés et chaque fois qu'il y a un mouvement sur un terrain de jeu, ça va avoir un impact sur d'autres. Et surtout, il faut souligner, chaque pays qui participe va avoir des objectifs différents, qui vont être différents par rapport aux besoins de sécurité, aux sentiments de menace, aux perceptions, par rapport aux perceptions de la puissance militaire et aux préférences de coopération. Donc, quel format privilégié? Donc, vous voyez, c'est excessivement difficile
c'est
de tout aligner.
Voilà,
moi, je parle plutôt d'un rugby Cube. Et pour les personnes qui ont déjà joué au Rubik's Cube et peut-être enlevé quelques autocollants désespérés de ne pas pouvoir accorder
les couleurs, oui, voilà.
Et imaginez-vous, c'est un Rubik's Cube qui est joué par 27 plus joueurs.
Oui, ça fait beaucoup.
Intervenir. Ça fait beaucoup. Donc, je pense que cette boussole stratégique, elle a surtout ces bénéfices de forcer les acteurs européens de réfléchir ensemble entre moyens et ce qu'on veut faire et essayer d'avancer sur ce chemin de la défense européenne qui est quand même non seulement semé d'embûches, mais aussi d'acronymes un peu indigestes.
Oui, Tara Varma, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit à la fois par Louis Gauthier et avec Johanna Möhring, c'est-à-dire effectivement la clarification nécessaire d'aller vers peut-être plus de simplicité pour mieux comprendre ce que l'on a à faire en commun en tant qu'Européens en matière de défense et de sécurité.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et Louis Gauthier mentionnait justement le fait qu'il y a eu déjà deux documents qui ont été publiés pour essayer de définir ce que serait une politique étrangère et de sécurité européenne.
Par les prédécesseurs de Joseph Borrell, justement.
Exactement, par ses prédécesseurs. Le premier date de 2003, le second de 2016. Et en réalité, la stratégie globale qui avait été publiée en 2016, elle arrive à un moment assez malheureux, puisqu'elle arrive 5 jours après la décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne, alors même qu'évidemment, le Royaume-Uni était inclus comme un acteur assez essentiel de cette stratégie européenne. C'est un acteur diplomatique et militaire extrêmement important, comme la France. Et donc, la France s'est aussi un peu retrouvée seule à être leader sur ces questions-là. Donc ce qu'on a vu depuis 2016, c'est le Brexit et aussi l'ère Trump, qui a évidemment transformé la relation transatlantique et la garantie de sécurité américaine, parce qu'on a mentionné l'OTAN. L'OTAN, c'est 30 États membres, dont 21 sont aussi membres de l'Union européenne. Et c'est vraiment la pierre angulaire de la sécurité européenne pour un grand nombre d'États membres de l'Union européenne. Je pense que ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Et par ailleurs, ce qui se passe à l'OTAN, c'est un processus parallèle à celui de la boussole stratégique, qui est la rédaction du nouveau concept stratégique qui verra le jour en juin prochain. Et donc on voit bien que ces deux processus de livre blanc ont lieu en parallèle. Et d'ailleurs, il y a des consultations entre l'Union européenne et l'OTAN pour que les deux processus se chevauchent et qu'ils soient complémentaires. Et je pense que c'est ça qui est aussi important depuis Paris à dire à nos partenaires européens, pour qui l'OTAN est souvent vraiment leur principale garantie de sécurité.
Et dans un texte que vous rédigiez, Louis Gauthier, en 2019, au moment où vous allez rendre votre rapport, ou juste après, au président de la République, vous disiez que l'équation de sécurité européenne était devenue un polynôme à trop d'inconnus. Est-ce que vous pensez qu'on a supprimé quelques-unes de ces inconnues depuis 2019 ou qu'on en a rajouté encore ?
D'abord, il y a des choses qui sont hélas devenues plus claires. C'est effectivement la zone de risque dans laquelle on est rentré. Le départ des Américains d'Afghanistan, du Moyen-Orient plus généralement, crée aussi des vides de sécurité auxquelles l'Europe devra faire face. Moi, ce qui me frappe dans la boussole, le nom est un peu étrange, mais par rapport justement à la stratégie globale, on voit une entrée en matière pleine de prudence. On ne dit pas c'est la grande stratégie, c'est la grande revue stratégique, on n'emploie pas les grands mots d'autonomie stratégique, de souveraineté, il y a une espèce de prudence. Mais contrairement aux exercices précédents, qui ne hiérarchisaient pas les priorités, qui étaient trop ambitieux sans doute, qui ne hiérarchisaient pas les objectifs, là je trouve qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont assez précises.
Lesquelles ?
Je vais y revenir à l'instant, parce que vous avez cité le rapport que j'avais rendu au président de la République sur retrouver dans cette boussole stratégique, d'abord l'idée que on n'est pas dans une logique de concurrence sur la problématique de la sécurité collective avec l'OTAN, on n'est pas simplement dans la prise en compte des problématiques militaires, mais bien de concepts de sécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Bélarus, c'est pas un risque d'invasion de chars russes, c'est toutes ces menaces hybrides qui pèsent dans le cyber, toutes ces évolutions qui font que nos régimes démocratiques sont instrumentalisés, sont intimidés, toutes ces provocations. Et donc, il y a besoin en réalité que les Européens pensent d'abord à leur sécurité, pas simplement à leur sécurité militaire. Et puisque rajoute Joseph Borrell, et là aussi c'est très précis, mais cela dit, il y a des gestions de problèmes de sécurité qui impliquent qu'on ait recours à des moyens militaires. L'exposition, d'évacuation de ressortissants, c'est très clair. Or aujourd'hui, ça, l'Europe, il lui manque une tour de contrôle, la capacité de faire de la planification et du commandement, et du mode des forces de réaction rapide, puisque depuis la mise en place des battle groups, on est resté l'arme au pied. Et donc, il dit des choses assez précises. Et donc, on voit bien une articulation entre ce que fait l'OTAN en matière de sécurité collective, qui n'est pas contestée, en matière de réponse militaire, mais des enjeux pour les Européens, en matière de gestion de risque, cyber, terrorisme, etc., je ne les reprends pas, en matière de capacité de mobiliser rapidement des forces d'intervention dans son environnement, et enfin la nécessité de consolider la force technologique de l'Europe dans un certain nombre de domaines, et il évoque effectivement des programmes qui sont militairement structurants pour les Européens.
Mais on est quand même très loin, on est très très loin par exemple de cette armée autonome de 60 000 hommes, je crois qu'elle avait été prévue par le traité de Saint-Malo, et dont vous disiez dans un texte qu'elle était restée une armée de papier par exemple.
Ah oui, oui, donc entre l'armée de papier et quelque chose de concret, la boussole dit très clairement il faudrait être capable de déployer des effectifs, je sais pas, au maximum de 3 000 à 5 000 hommes, en situation d'urgence absolue, dans des situations où les États-Unis ne sont pas impliqués. On voit bien que les Américains ont plutôt tendance à se dégager de théâtre dans lequel des risques sont à prendre en compte par les Européens. Donc voilà, il faut aussi des réponses opérationnelles militaires. Par ailleurs, l'Union européenne, c'est une union politique, une union de démocratie politique. Bon, l'OTAN est une alliance militaire. Il y a un certain nombre de problèmes parce que ça touche à la souveraineté, parce que ça touche à nos procès démocratique, par exemple les élections, la protection des élections, qui concerne directement le fonctionnement même de l'Union et pas une alliance, pas nécessairement une alliance militaire, avec la difficulté de produire aujourd'hui une décision dans l'OTAN sur un certain nombre de sujets, du fait de l'éloignement des uns, ou même du risque, par exemple, d'un veto turc sur certaines questions.
Johanna Möhring, est-ce que vous pensez qu'il y a une culture stratégique suffisante dans un continent qui s'est pensé comme une puissance douce, c'était même une théorie qui était avancée par beaucoup d'observateurs de l'Europe il y a peu de temps encore, donc comme une puissance douce, est-ce qu'il y a une connaissance stratégique suffisante des citoyens européens pour comprendre ces enjeux qui sont en train de passer plus ou moins d'une sorte de soft power à un pouvoir plus dur, à un hard power?
Oui, je pense que vous soulignez un point qui est extrêmement important, c'est la capacité de penser et agir stratégiquement et qui fait cruellement défaut. Et la question est pourquoi, et je pense que la réponse est, on peut être trouvé dans une sortie de l'histoire de l'Europe à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on s'est un peu retrouvé soit une partie dans le bloc communiste et l'autre partie sous la tutelle américaine et qu'on a en gros, outsourcer, pour utiliser ce horrible mot anglicisme, à toutes les questions de puissance dure aux États-Unis. Et donc, on devrait
passer... On a donc délégué tout cela aux États-Unis.
Oui, donc les questions qui fâchent, on a un rude besoin de réapprendre vraiment de cette réflexion stratégique. Mais ce n'est pas une mince affaire, parce que l'institution qui est à notre disposition, l'Union européenne, elle a été conçue pour trouver des compromis, faire des arbitrages. Et malheureusement, toutes les questions qui sont liées à la sécurité nationale, c'est des choses qui ne se négocient pas. Donc c'est très dur de passer, donc, non seulement d'une mentalité que vous soulignez, donc de la puissance tous, de se dire le voisinage s'est transformé, on a vraiment besoin de prendre des choses en main, ce qui n'est pas tout à fait récent, parce que depuis les guerres en ex-Yougoslavie, on est quand même face à la possibilité de la guerre sur le sol européen. Donc on aurait pu utiliser ce temps qui nous était donné, grosso modo, entre Saint-Malo et l'invasion de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée par la Russie, qui était une sorte de choc de réveil, pour développer non seulement les outils, mais aussi une pensée. Mais seulement, on n'a pas vraiment...
été assez vite, assez loin.
Assez vite, parce que c'est un peu normal, si on n'est pas forcé. Et il se peut qu'il y ait non seulement la conjoncture géopolitique qui nous force à prendre ces choses plus au sérieux, mais également, bien sûr, ça c'est le grand inconnu, et Mme Varma l'a déjà évoqué, la parenthèse. Trump peut tout à fait s'avérer comme non seulement une parenthèse, mais une sorte de chose qui va nous retomber dessus. Et donc cette petite pause pour souffler avec l'élection de Joe Biden peut très bien...
ne pas être une pause.
Voilà.
Tara Varma, d'ailleurs, on peut dire par exemple que, et ce sont des signes, alors on essaye d'interpréter les signes quand on est extérieur à ces questions-là, que Josep Borrell a été à la mi-octobre le premier haut responsable de l'UE pour les affaires étrangères à être reçu au Pentagone. Donc on se dit, peut-être tout cela est en train d'être acté. Qu'est-ce que vous en pensez?
En tout cas, il y a un changement d'attitude certain de la part des institutions européennes. C'est vrai que jusqu'à l'ère Trump, Johanna Möhring et Louis Gauthier l'ont dit, on était assez contents, enfin on se satisfaisait de déléguer tout ça aux Américains, qui d'ailleurs avaient l'habitude d'en prendre le leadership, donc c'était aussi clairement une responsabilité partagée. L'ère Trump a montré plusieurs choses. La première est qu'en fait, il y a très peu de forums de discussion dédiés en dehors de l'OTAN, aux questions de sécurité entre les institutions et Washington. Et surtout, ça a montré que du coup, quand la relation est compliquée et tendue, les canaux de communication divers n'existent pas. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où les Européens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de prendre plus de responsabilités, de leur sécurité au sens très large. Parce qu'effectivement, ça a été rappelé aussi... pour que l'Union européenne se dote d'outils, si ce n'est offensifs, au moins défensifs, il faut un changement de paradigme. C'est contre-naturel dans l'idée du projet européen, qui était un projet de paix et de prospérité économique.
Donc surtout après l'échec au tout début de l'Europe, de la CED, la Communauté européenne de défense, qui a été un traumatisme pour ceux qui voulaient aller du côté de la défense et qui a été remplacé par d'autres critères d'union, qui étaient plutôt des critères commerciaux et culturels.
Exactement. Et d'ailleurs, l'Union européenne s'est développée d'un point de vue culturel et d'un point de vue économique. Et on a longtemps pensé que cette prospérité économique et cette interdépendance économique nous protégeraient de la guerre, en tout cas de la guerre conventionnelle. Bon, on a vu ça que c'était faux, malheureusement. Et par ailleurs, il y a plusieurs types de guerres, en tout cas plusieurs types de conflits qui ont lieu, des conflits hybrides auxquels la boussole stratégique fait beaucoup référence, et Josep Borrell, le représentant européen aussi, parce que l'idée, c'est justement que l'Union européenne se dote d'outils pour faire face à ces différentes menaces. Et l'exercice de la boussole est vraiment intéressant parce qu'il répond à trois questions. Quels sont les défis et les menaces auxquels l'Union européenne fait face? Comment est-ce qu'on peut mettre nos ressources en commun et les utiliser, puisque l'idée, effectivement, c'est pas d'avoir 27 fois les mêmes capacités ou de créer une armée européenne, c'est pas du tout ça l'idée. Et enfin, quelle est la meilleure manière de projeter l'influence de l'Europe, à la fois d'un point de vue régional et d'un point de vue global? Et justement, c'est là où on pourra aussi peut-être parler d'Indo-Pacifique et de la volonté de l'Union européenne d'être un acteur bien au-delà de son voisinage proche. Mais je trouve que l'ambition européenne, elle est très affirmée. Et l'ambition d'aller vers une culture stratégique commune, elle est aussi affirmée. Et elle ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait une identification commune de ces défis et de ces menaces.
Vous écoutez Le Temps du débat. Il est 18h42 sur France Culture. L'Union européenne est-elle prête pour une défense commune? C'est notre thème. En compagnie de Tara Varma, directrice du bureau de Paris du think tank European Council of Foreign Relations, de Louis Gauthier, qui est professeur à l'université Panthéon Paris-Sorbonne, où il dirige la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, de Johanna Möhring, chargée de recherche au CACIS à l'Université de Bonn et chercheuse associée au Centre Thucydide.
Si l'Europe doit, pour des raisons qui lui appartiennent, intervenir dans des conditions où les Américains ne seraient pas concernés, il faut qu'elle ait les moyens de le faire. D'où l'idée d'une Europe de la défense, qui n'est pas du tout de nature à affaiblir l'Alliance, naturellement, mais au contraire, à la renforcer.
Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, à cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. Nous n'avons pas les mêmes cultures, parlementaires, historiques, politiques, ni les mêmes sensibilités. Et nous ne changerons pas cela en un jour. Mais je propose dès à présent d'essayer de construire cette culture en commun.
France Culture, Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous notiez, Louis Gauthier, dans vos travaux et en particulier dans votre rapport, que tout compte fait, les budgets militaires européens n'étaient pas ridicules, qu'ils étaient même d'un ordre important en termes de budget, mais que, évidemment, la non-coordination de ces programmes militaires était un problème, qu'il y avait 17 modèles de chars contre un seul outre-Atlantique, qu'il y avait des systèmes de combat hétéroclites à l'intérieur de l'Europe, et que peut-être c'était une des questions qu'il faudrait régler. Est-ce que, justement, la boussole stratégique commence à aborder ces questions-là, ou est-ce que c'est encore trop tôt?
Ah, c'est trop tôt. C'est-à-dire, la boussole stratégique indique bien des actes d'effort qui doivent être faits, soit collectivement ou en coopération entre les États, cette fameuse co-construction qu'évoquait Johanna Möhring. Mais elle ne va pas, sans doute il faudra le prévoir, hein, un jour, une programmation des appareils militaires des 27. Donc, prudemment, il y a des domaines d'investissement qui sont ciblés.
Il y a un fonds européen de défense, par exemple.
Voilà, il y a la mobilisation du fonds européen de défense, et puis un certain nombre de grandes capacités qui font d'ores et déjà l'objet de projets en commun.
De développement et de recherche, en particulier.
Le système de combat aérien futur, la capacité d'observation de la Terre, la plateforme maritime sans pilote, donc qui donne un certain nombre d'exemples. Alors c'est vrai que tant qu'on n'aboutira pas à davantage de convergence dans les processus de planification et de programmation des panoplies militaires, on perdra de l'argent faute de cette rationalisation. C'est-à-dire qu'on aura à la fois des capacités qui marquent des différences importantes dans certains domaines, et faute de concertation, et puis quelquefois des surcapacités dans d'autres. Et donc je pense que c'est une réflexion qui est quand même conduite hein, dans certaines institutions à l'Agence européenne de défense ou ailleurs dans les états-majors. Il y a quand même une réflexion qui est conduite sur les objectifs de réflexion, de convergence sur les programmations. Mais évidemment, on n'est pas aujourd'hui une programmation militaire concertée. C'est pas le cas, c'est regrettable, mais ce n'est pas le cas. Et donc, la boussole indique des axes de financement prioritaire et indique des programmes qui devaient se trouver confortés.
Oui, Johanna Meuring, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, je crois que c'était vous qui l'évoquiez, c'est le départ de la Grande-Bretagne, en tous les cas, de l'Europe, cela change la donne, cela fait de la France la seule puissance nucléaire en Europe, mais en même temps, on voit très bien que de la part d'autres acteurs européens, eh bien, on se dit, on ne veut pas être simplement, disons, soumis à la seule volonté de la France comme se pensant le leader d'une défense européenne à venir. Qu'il y a des réticences de ce côté-là. On sent bien qu'il y a des tensions qui sont possibles entre tous les pays européens, justement pour essayer de voir comment on peut travailler ensemble sans que l'un ou l'autre des pays ne soit dominant sur les autres.
Oui, c'est absolument fabuleux que vous évoquiez cette question parce qu'elle m'a pas mal occupée également. Et je pense ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Et pour que ça marche, pour qu'on puisse créer des choses vraiment de substance ensemble, qui dépassent des lignes directives qui sont très claires, mais où on voit que l'horizon temps est encore très très loin, c'est de passer à un autre style de coopération. Parce que actuellement, même si on vit dans une construction unique au monde entre pays européens, on reste quand même dans ce qui appelle Bertrand Badi les relations internationales qui sont gouvernées par la hiérarchie, par la rivalité et par la charité. Donc cette idée qu'on puisse donner des leçons aux autres. Donc et je pense effectivement, et ça c'est peut-être, permettez-moi de le dire de mon prisme un peu allemand, ça c'est aussi une spécificité française qui peut parfois être un peu compliquée. Et bon,
vous nous faites le coup de l'arrogance française, c'est ça?
Non, pas du tout. C'est une spécificité, c'est un art français et c'est l'art de gouverner par le verbe. Alors de quoi je parle? Je parle donc de cette capacité extrêmement impressionnante de pouvoir formuler des édifices intellectuels et les présenter avec brillance. Et seulement, on a l'impression que ces coupes de champagne manquent un peu à enivrer les autres convives européens. Donc je pense effectivement qu'il faut passer à autre chose. Et c'est à la fois rudement difficile et très facile. Mmh. Donc ce style, le nouveau style de coopération impliquait que chaque pays européen comprenne
grand et petit
que, et ça va faire un peu mal, que comme a dit un politicien danois à un représentant de la Grande-Bretagne, que aujourd'hui en Europe il n'y a que des petits pays et des petits pays qui ne savent pas encore qu'ils sont des petits pays. Donc c'est effectivement très rude, mais je pense qu'en passant donc à un style de coopération où on reconnaît l'autre comme père, comme vraiment égal, ça permet aussi de prendre au sérieux les besoins des autres. Je pense que ça change la donne et ça permettrait effectivement ces arbitrages qui pour l'instant font défaut.
Oui, ça ne fera pas plaisir à notre ministre d'économie et des finances qui a dit cette semaine que la France n'avait pas un destin de puissance moyenne mais de grande puissance. Tara Varma, sur cette façon de se considérer comme un parmi d'autres et non pas supérieur aux autres, vous pensez que c'est nécessaire pour la mise en place de cette puissance donc de défense et de sécurité européenne?
Je pense que c'est indispensable et on a vu la méthode française, même la méthode Macron un peu contestée, cette méthode qui consiste à secouer le cocotier, à poser des initiatives sur la table qui, effectivement...
Sur l'OTAN, il a été assez raide, oui, effectivement.
Voilà, sur l'OTAN, la mort cérébrale, mais aussi beaucoup de questionnements sur ce qu'on est censé faire en tant qu'Européens. Je trouve que c'est intéressant. Et alors, sur les questions de dissuasion nucléaire, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a, c'était un autre aspect de la méthode Macron. Il a laissé la porte ouverte aux Européens quand il a fait son discours en février 2020. Il a demandé aux Européens de nous solliciter français si discussion il devait y avoir sur les questions de dissuasion européenne. Donc c'était un peu différent de ce qu'il fait habituellement, mais je crois que oui, on voit bien qu'alors il y a la question institutionnelle de l'unanimité et d'ailleurs la boussole stratégique essaye d'y donner une réponse un peu plus flexible, une réponse finalement assez française qui serait d'aller vers de l'efficacité opérationnelle et une des options que Josep Borrell met sur la table, c'est ce qu'il appelle l'abstention constructive, donc l'idée qu'un certain nombre de pays pourraient travailler ensemble en coalition, les pays que ça intéresse sur un sujet donné.
Et les autres s'abstenir.
Et les autres s'abstenir, donc c'est assez intéressant. Il y a un autre point de contentieux qu'il faudra dépasser avec l'unanimité, c'est évidemment ce que Louis Gauthier aussi évoquait. En 2005, il y a des groupements tactiques de réaction rapide qui ont été introduits, qui n'ont jamais été utilisés. Et la force militaire conjointe d'intervention rapide qui propose d'être créée dans la boussole stratégique, c'est un point assez sensible parce qu'on se demande effectivement comment on pourrait l'employer. Si cette idée d'abstention constructive allait de l'avant et que les Européens se mettaient d'accord dessus, je pense que ça donnerait effectivement beaucoup de flexibilité et de capacité opérationnelle. Et on en revient vraiment à ça parce que finalement, on l'a dit, le terme d'autonomie stratégique est vraiment un terme qui est très lourd dans le débat européen. Il n'est employé qu'une fois dans le document actuel, dont la version finale sera adoptée d'ailleurs plus tard en 2022. Mais pour l'instant, c'est un terme qui n'est utilisé qu'une fois. Et l'idée, je pense que c'est plutôt de se rapprocher de l'expression allemande qui correspond à la définition de capacité d'agir. Donc donner à l'UE des capacités d'agir.
Louis Gauthier, vous qui êtes vraiment un très grand observateur de ce qui se passe dans le monde, est-ce que les deux nouvelles qui viennent de tomber il y a une heure et il y a quelques minutes sur les téléscripteurs, comme on disait dans le temps, et sur nos écrans d'ordinateur, à savoir d'un côté la reprise des combats en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et par exemple le tir contre un satellite que reconnaît Moscou dans l'espace, qui est critiqué par l'ensemble de l'Europe, que ce soit à Berlin ou à Paris, sont de l'ordre de nous dire, voilà, les nouvelles menaces qui menacent l'Europe pour sa défense et sa sécurité.
Oui, je pense que vous avez raison. Alors, je reviens juste parce que vous avez fait entendre Jacques Chirac et Emmanuel Macron, puis ensuite il y a eu ce commentaire, mais je suis d'accord, il faut un profil modeste, il ne faut pas des débats trop interminables, il faut que tout le monde s'y retrouve, les petits et les grands, et tout le monde étant mis sur la même ligne, mais reconnaissons quand même que sur ce projet, si la France n'avait pas régulièrement porté le flambeau, au risque d'ailleurs
c'est vrai, oui, ça
de faire critiquer, oui. Qui l'aurait fait, grand ou petit pays, qui l'aurait fait? Et donc la question se pose aujourd'hui, un peu dans les mêmes termes, effectivement le flambeau peut être passé, mais ça implique une volonté. Or, ce que vous évoquez à l'instant, que ce soit le tir russe sur le satellite, que ce soit la reprise des échanges courriers en Afghanistan montre que, là encore, quand la France peut-être avançait avec un peu trop de particularisme, ses projets dans des contextes qui étaient moins dangereux, on pouvait être tenté de dire, voilà, on en reparlera une autre fois, plus tard, etc. Aujourd'hui, le monde change et les défis qui sont adressés aux Européens. Et alors, on peut aller chercher toutes les réponses à Washington. On en aura certaines, et c'est évident. Et je pense que, et notamment en termes de fonctionnement de l'Alliance, de futurs concepts de l'OTAN. La première question que doivent se poser les Européens, c'est la capacité à apporter eux-mêmes des réponses à des problèmes auxquels ils sont eux-mêmes directement confrontés. Mmh. Alors, si on ne comprend pas la leçon de la Bélarus, si on ne comprend pas ce qu'a été le terrorisme en Europe et les déficits de sécurité, si on ne comprend pas qu'une vague d'attaques cyber rebondit d'Ukraine sur la Pologne et atteint la France, si on ne comprend pas tout ça, ben je ne sais pas quelle démonstration tous les propos, toutes les formes de modestie ou de critique sur le style n'ont plus aucune espèce de, comment dirais-je, d'importance par rapport à des choses du monde réel.
Vous voulez dire qu'il y a des menaces
pas de la phraseologie, pas uns et des autres. Le monde réel nous adresse un discours. Voilà. Alors là, et les Européens doivent se saisir, à mon avis, très rapidement, parce que les dangers, ils sont à nos portes. Et donc, on peut aller chercher tous les faux fuyants, tous les débats sur sémantique, sur autonomie stratégique, coopération, tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mmh. Le monde réel, il est à nos portes. Mmh. Le monde réel est un monde qui est devenu plus dangereux. Alors, soit les Européens font face collectivement à ce monde, bah, soit ils vivront sans doute pas des moments très agréables dans les années, les décennies qui viennent.
Johanna Möhring, on a l'impression effectivement que, en moins en parole, et on a beaucoup parlé de parole et d'actes dans cette émission, eh bien, il y a une prise de conscience tout de même. Même si ça n'est pas encore allé aussi loin que certains le souhaiteraient, il y a une prise de conscience en parole.
Absolument, mais il faut souligner vraiment la frustration de Monsieur Gauthier, elle est vraiment réelle par toutes les praticiens et praticiennes qui observent ce tableau sombre. Mais malheureusement, je pense qu'on est face à un comportement bien humain d'attendre jusqu'au dernier moment avant de réagir. Mmh. Et effectivement, je pense qu'il y a un manque de responsabilité. Il y a là je peux vraiment m'adresser directement à mon pays natal, de dire que une défense dans un contexte européen ou de l'Alliance Atlantique, c'est une responsabilité qui doit être prise au sérieux, qui doit donc pas se limiter à des paroles, mais à des actes et des investissements.
Et de ce côté-là, on a l'impression que ça commence à bouger aussi en Allemagne.
Tout petit peu, mais je serais pas trop optimiste, parce que l'Allemagne est dans une situation particulière, qu'elle a pris d'énormes responsabilités dans le cadre de l'OTAN, comme une des nations cadres qui en fait promeut des clusters de compétences dans le sein de l'OTAN, mais aussi dans le cadre de l'Union européenne. Mais on a toujours cette impression que ces réalités décrites par M. Gauthier ne s'en filtrent pas à l'intérieur de l'Allemagne. Et le meilleur exemple, c'est les élections au Bundestag, où la politique étrangère était absolument pas un sujet. Donc on a presque l'impression que la position physique de l'Allemagne la garde de cette prise de conscience.
Merci à vous, Johanna Möhring. On attendra avec impatience la soutenance de votre thèse. J'espère que c'est l'année prochaine, autour de l'avenir de la coopération en matière de défense et d'Europe, en Europe. Merci à vous, Tara Varma, d'avoir été avec nous, directrice du bureau de Paris du think tank European Council of Foreign Relations. Et merci, un grand merci à vous, Louis Gauthier, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, où vous dirigez la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains, et je conseille vraiment très chaleureusement le 4e tome et l'ensemble des tomes de ce monde en guerre, publié aux éditions Passé Composé. Vous avez dirigé le 4e tome, Guerre sans frontières, 1945 à nos jours. C'était le temps du débat composé donc avec toute l'équipe du temps du débat. Et demain, nous aurons un thème sur le contrôle des chômeurs. Fait-il la politique de l'emploi ?